partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, nous sommes le 13 août 2020, déjà jeudi, la semaine est bien avancée, évidemment, et je vous propose aujourd'hui des sujets qui sont assez différents, hétéroclites, ça se voit un peu partout, on voit à peu près dans tous les sens. Mais le premier est très intéressant à mon point de vue parce que c'est une situation que nous traversons pour la première fois de notre existence, mais en même temps et du même coup, ça peut faire penser à notre propre existence. Avez-vous des proches qui vivent en CHSLD, qui ont vécu cette situation alors que nous, on se pensait confinés parce que le Québec a été mis sur pause, mais nous avons eu nos propres difficultés, des dommages collatéraux, des anxiétés qui ont été soulevées, des difficultés de manquer de sociabilisation, etc., etc. Vous connaissez comment vous avez traversé ça, vous savez comment vous l'avez vécu. Je n'ai pas besoin de vous faire une longue liste. Chacun a été touché selon ce qu'il est comme profil, comme personnalité, comme nature, comme tempérament. Mais ces gens qui étaient en CHSLD et qui ont été la première proie de cette pandémie à des niveaux impensables, évidemment, ça a été un problème probablement de gestion à l'interne du réseau de la santé. C'est pas là que j'en suis. Il y a eu des décès, mais il y a des survivants à cette pandémie. Il y a des gens qui continuent à vivre en CHSLD et pour lesquels, évidemment, on se pose moins de questions parce que, évidemment, ils ne font pas la manchette autant. Ce sont les morts qui ont attiré notre attention et qui ont créé cette situation épouvantable au Québec qui nous met dans des chiffres qui sont véritablement désolants. Disons ça comme ça, parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique de quelque nature que ce soit. Je veux faire un constat aujourd'hui de se dire, ces gens-là qui, évidemment, étaient déjà limités dans leur action due à leur âge avancé, à leur situation de santé, est-ce qu'ils ont dépéri suite au confinement, suite au fait d'être isolés, même dans des quartiers. Avant, ils étaient peut-être isolés par étage. Là, c'est peut-être des quartiers, des zones que l'on appelait chaudes, des zones froides, des zones tièdes. J'ai personnellement des gens dans ma famille qui vivent en CHSLD et j'ai remarqué une différence, évidemment, parce que moins sociabilisés, moins d'activités, les gens étaient préoccupés, le personnel de soutien et de santé était préoccupé par les gens qui étaient lourdement touchés. On va parler de cette situation-là parce que ça frappe fort chez les aînés et il faut voir justement quelles sont les séquelles maintenant des survivants de cette affaire. On va parler au docteur David Lucier qui est gériatre au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. C'est une institution que je connais bien. J'y ai été souvent dernièrement. Bonjour docteur Lucier.
Bonjour M. Mongrain.
Dites-moi. Oui, c'est le drame. Il y a eu des pertes de vie, comme je le disais en introduction, avant de s'entretenir avec vous. Mais il y a des gens qui ont survécu à cette pandémie et qui sont des gens qui sont certainement affaiblis. Quelle est la situation d'une personne qui perd ses habitudes de vie, bien qu'elle n'est peut-être pas tout à fait consciente? Moi, j'ai senti un manque d'acuité, un manque d'éveil.
Oui, effectivement. Puis vous parliez en introduction là, des gens qui sont en CHSLD, où c'est des gens, évidemment, qui sont en perte d'autonomie beaucoup plus importante. Puis ces gens-là, les acquis, sont souvent très fragiles. Donc, si on a quelqu'un qui habituellement est capable, par exemple, seulement de se transférer du lit à la chaise seul ou avec un peu d'aide, si on ne peut pas le faire parce qu'ils ont été malades de la COVID, par exemple, pendant X semaines et qu'ils étaient au lit, souvent ils ne seront pas capables de regagner cette autonomie-là. Aussi, les gens qui socialisaient plus, même des gens, comme vous le disiez, qui n'ont pas été atteints de la COVID, mais qui socialisaient plus à l'intérieur des murs du CHSLD, qui participaient aux activités collectives, soit des activités de stimulation intellectuelle ou des exercices, toutes ces activités-là ont été complètement cessées là, pendant plusieurs semaines. Donc là aussi, ça a pu avoir beaucoup d'effets sur ces gens-là qui ont perdu la capacité de faire certaines choses et aussi, comme vous le dites, une perte d'acuité. Mais probablement que c'est encore pire pour les gens qui sont à la maison et qui sortaient. Il y a des personnes âgées qui sont qui n'ont pas vraiment de perte d'autonomie significative, mais donc qui pouvaient marcher, aller faire l'épicerie, aller faire des courses, aller prendre un café au restaurant du coin et qui se sont isolés à la maison là pour suivre les consignes et pour pas se mettre à risque. Et eux aussi vont avoir beaucoup de difficultés à reprendre la mobilité qu'ils avaient avant parce qu'ils l'ont pas utilisée là, pendant plusieurs semaines.
Alors, est-ce qu'on peut faire un genre de règle qui dit moins on est autonome, moins on est affecté? Si on est semi-autonome et qu'on perd cette dimension de mobilité, de loisir, de sociabilisation, peu importe la grandeur de ces gestes, de ces mouvements-là, on est plus affecté que ceux qui sont en CHSLD et lourdement touchés.
Plus affecté, je ne suis pas certain qu'on peut le dire. C'est certain que quelqu'un qui a déjà perdu toutes ses capacités et qui est alité 24 heures sur 24, il lui reste malheureusement pas grand-chose à perdre, alors que quelqu'un qui est capable de vaquer à certaines activités, lui, en a plus à perdre, surtout s'il est fragile. On dit toujours... En anglais, on dit use it or lose it. Donc, ouais. Si on l'utilise pas, on va le perdre. Là. Donc, ma grand-mère, elle disait toujours grouille avant que ça rouille. Donc, si on bouge pas, c'est sûr qu'on va perdre nos capacités. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à plusieurs personnes qui ont arrêté des activités pendant plusieurs semaines.
On connaît cette expression de votre grand-mère et il y a une sagesse là-dedans. Il faut continuer à être actif. Il faut se donner des coups de pied au derrière pour essayer de bouger le plus possible et de garder une certaine activité cérébrale, que ce soit le jeu de poche, que ce soit de jouer à quoi que ce soit. Je pense que c'est important de garder cette activité-là. L'être humain est fait pour ça.
Ben oui, en fait, il y a des gens qui font des PhD, des carrières complètes en recherche sur comment bien vieillir, mais il aurait seulement dû demander à ma grand-mère parce qu'elle le savait déjà. Oui. On sait que ce qu'il faut faire pour bien vieillir, c'est de rester actif autant physiquement qu'intellectuellement. Puis ça, si on le fait pas pendant quelques semaines, ben on va en perdre.
Dites-moi, est-ce que l'espérance de vie de ces gens qui ont perdu cette activité-là est diminuée? Autrement dit, est-ce que le dépérissement intellectuel peut entraîner la perte de vie?
Ben, il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes qui ont perdu des capacités qui vont les retrouver.
Ah oui?
Donc, si on reprend, ça dépend du degré de perte, ça dépend du degré de base aussi. Mais si on reprend la stimulation, il y a une certaine partie de ça qui peut être retrouvée. Pour ceux qui vont pas le retrouver, ça dépend beaucoup de la sévérité de la perte qui est survenue pendant la période d'isolement. Si quelqu'un a perdu beaucoup à cause de la perte de stimulation, puis si on l'entend vraiment, vraiment beaucoup de plusieurs familles, là, surtout des personnes qui ont été isolées pendant tout ce temps-là, oui, ça peut diminuer l'espérance de vie, mais ça va surtout diminuer l'espérance de vie de qualité parce que ils vont perdre cette capacité d'interagir avec leur environnement plus rapidement qu'ils l'auraient fait sans les périodes d'isolement.
On a toujours une question dans la tête lorsqu'on l'on va voir, que l'on va visiter, que l'on rencontre ces gens qui sont, dans l'Alzheimer ou la sénilité avancée ou la démence, peu importe, on dirait que ça se rejoint tout à un moment donné. Ça, les chemins se croisent dans la perte de cette autonomie-là. Est-ce qu'ils savent l'état dans lequel ils sont? Nous, on ne voudrait pas s'imaginer dans leur état, mais eux, est-ce qu'ils sont conscients de cette perte qu'ils ont de leur propre capacité?
Ça, c'est vraiment une excellente question. Évidemment, on n'a pas été là personne, donc c'est difficile de le savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'au début, quand les gens commencent à avoir des pertes cognitives, des fois, ils s'en rendent compte, des fois, ils s'en rendent pas compte. Il y a souvent beaucoup de déni au début, là, dans les premières phases de l'Alzheimer, parce que c'est vraiment celui qui est le plus progressif, alors que les autres sont plus subis. Donc, dans l'Alzheimer, on se rend compte un peu, des fois après, il y a du déni, mais à un moment donné, quand on s'en rend compte plus, là, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance parce qu'on est conscient. Ce qu'on pense, c'est qu'à un certain moment, donc quand on est dans des phases très, très, très sévères, c'est comme d'être dans un brouillard total, comme si on émerge du sommeil puis qu'on se rend plus ou moins compte de ce qui se passe autour. Donc, on pense que ces gens-là se rendent moins compte de leur perte. Ils ont moins conscience de l'environnement, un peu comme un tout petits nouveau-nés, là, mais ils vont être conscients. Ce que les gens gardent jusqu'à la toute fin, là, c'est la mémoire affective, c'est la capacité d'entrer en relation de façon simple avec l'autre, donc la musique, le toucher, ça, on le garde. Ça, c'est beaucoup réconfortant jusqu'à la toute fin, là, même si on n'est pas conscient tout à fait de l'environnement. Puis même si probablement que la souffrance est beaucoup plus pour la personne qui le voit oui. que la personne qui le vit, parce que la personne qui le voit, elle est totalement consciente de ce qui se produit.
Savez-vous, ça fait presque plus que ça, même pour les gens qui sont les accompagnateurs ou les gens de la famille ou les proches. Parce que, personnellement, j'ai pas peur de le dire, j'avais une vision tout à fait différente avant, pas avant les CHSLD ou la réalité, mais de cette tempête que nous traversons et que nous avons traversée. Moi, ça m'a fait voir la fin de vie différemment. Est-ce que vous, comme gériatre, qui prenez soin des gens et qui êtes près de cette dégénérescence de l'être humain tout à fait normale, on voit tous y passer par là, en tout cas en grande partie. Est-ce que vous, ça a changé votre vision de la fin de vie?
Je crois pas que la pandémie a changé ma vision de la fin de vie parce que ma vision de la fin de vie était probablement déjà différente de celle de la plupart des gens. C'est-à-dire que ce qui est le plus important quand on pense à notre fin de vie, c'est de bien connaître nos valeurs, nos motivations profondes et de les faire et de les partager avec nos proches. Donc, par exemple, si pour quelqu'un, ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être actif, d'être le plus autonome possible, probablement que cette personne-là ne voudra pas vivre la dégénérescence, vivre la perte d'autonomie progressive, vivre même le CHSLD. C'est correct de ne pas vouloir le vivre. Donc, en pensant comme ça, on peut dire à nos proches, par exemple, que si on a telle pathologie, on va préférer ne pas être traité pour cette maladie-là. On parle beaucoup d'aide médicale à mourir, mais c'est quand même une exception. Là. C'est quand même un très petit pourcentage des gens qui vont recevoir l'aide médicale à mourir. Mais ce que tout le monde peut faire, c'est de décider à quel point je veux que les traitements que je vais recevoir pour prolonger ma vie soient « agressifs », entre guillemets, si ce que je considère une vie de qualité n'est plus présent. Donc, je pense que c'est là, s'il y a quelque chose dont on s'est rendu compte beaucoup dans les dernières années, peut-être encore plus pour certains pendant la pandémie, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'on a un contrôle sur notre fin de vie parce qu'on peut s'assurer d'être en santé le plus longtemps possible, comme on le disait, mais aussi en s'assurant de ne pas avoir des traitements qu'on ne voudrait pas,
pas d'acharnement.
Pour prolonger une vie.
Pas d'acharnement.
Ouais, c'est ça. C'est de pas avoir des traitements qui vont prolonger une vie dont on ne voudrait pas, finalement.
Mais en même temps, cette loi doit aussi être modulée différemment parce qu'il faut que je sois pleinement conscient si je demandais l'aide médicale à mourir. À ce moment-ci, ce que la loi prévoit, il faut que je sois véritablement en pleine possession de mes moyens pour dire « Allez-y, docteur ».
Oui. Ça, c'est pour ça que je disais que l'aide médicale à mourir, c'est vraiment pour une infime minorité
exact.
Des gens. Par contre, je sais que je suis dans un état qui, pour moi, n'est pas une qualité de vie et que j'ai une pneumonie. Ça peut être très acceptable de ne pas traiter la pneumonie avec des antibiotiques, de seulement donner des médicaments pour s'assurer que je suis confortable. Et ça, on n'a pas besoin d'une loi. Ça, on le fait depuis toujours en médecine. Donc, il faut seulement que je m'assure que mes proches savent que c'est ça mes souhaits pour ma fin de vie. Puis à ce moment-là, mes proches vont pouvoir consentir pour moi ou même pour certains soins là, par les directives médicales anticipées qui malheureusement sont très peu connues au Québec.
Est-ce que ce que nous avons traversé, docteur, ne questionnerait pas l'ensemble de notre système à dire est-ce qu'on avait la bonne méthode que de faire de grandes institutions de CHSLD et que en fait, c'est un hôpital de soins de longue durée. On l'oublie quand on fait juste l'acronyme. Ou si on ne devrait pas modifier notre façon de gérer ou d'accompagner les gens en perte d'autonomie et vieillissant?
Ben, c'est une question qui est très complexe. On sait que la grande majorité des personnes qui sont en CHSLD, c'est des personnes qui pourraient pas être ailleurs parce que Ils ont besoin de, on dit plus que 3 heures soins, mais en réalité, la très grande majorité, ils ont besoin de 24 heures de soins par jour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être laissés seuls parce qu'ils ne pourront pas du tout réagir à n'importe quelle situation qui va se produire. Donc, pour la très grande majorité, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'autres alternatives. C'est certain qu'on parle beaucoup des soins à domicile, il y a beaucoup d'autres modèles qui pourraient être mis en place. Ça pourrait aider une certaine portion des gens qui sont en CHSLD. Pour les autres, malheureusement, il y a pas beaucoup d'autres options actuellement qui sont possibles, à moins d'avoir 24 heures d'aide à domicile. Oui. Mais je pense que ce qu'on a réalisé, ce que moi j'ai réalisé beaucoup, là, vous en parliez tantôt dans toute cette pandémie, c'est qu'on parle beaucoup des CHSLD comme des milieux de vie. C'est vrai que c'est un milieu de vie, un CHSLD, mais il ne faut pas du tout négliger le fait que c'est aussi un milieu de soins. Les gens qui sont là sont malades physiquement. S'ils sont pas malades, ils sont très fragiles. Donc, on peut pas, il faut faire attention quand on dit que le CHSLD, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie, mais aussi un milieu de soins. Puis, il faut pas du tout négliger l'aspect soins dans les CHSLD, que ce soit des soins médicaux et des soins infirmiers. On n'a pas seulement besoin d'activité puis d'aide pour faire nos activités. On a aussi besoin de soins médicaux et infirmiers là, quand on est en CHSLD. Puis ça, je crois que malheureusement, on le réalisait peut-être pas autant avant.
Oui, c'est ça. On oubliait que c'était un centre hospitalier de soins de longue durée.
C'est un centre d'hébergement, pour être le H, c'est pour hébergement et non ouais. pour hospitalier. Ça m'a pris 15 ans de gériatrie pour le réaliser,
ouais.
mais c'est aussi un centre hospitalier parce qu'on y donne des soins.
Et c'est la dernière place où on vivra.
Pour les gens qui y sont, oui. Mais il faut dire quand même que c'est un petit... Encore là, c'est pas la grande majorité des gens qui vont finir leur vie en CHSLD. Ça reste une minorité de gens au Québec.
Docteur David Lucier, gériatre, merci beaucoup. Vous êtes au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Merci de ce partage avec nous de votre métier, mais de votre réalité et par conséquence de la nôtre. Merci bien.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. Bon, c'est pas rien pour aller danser, ça, là, comme sujet, mais ça fait partie de la vie aussi. On a expurgé la mort de la réalité de la vie. On veut plus la voir, etc., etc. On fait ça vite aux funérailles. Brûle-moi ça, puis on s'en va. Toute l'expérience du deuil qui vient avec ça et de notre fin de vie, ça s'en vient sur nous. 514-790-9850. Est-ce que vous avez, dans cette pandémie, réfléchi à votre propre fin? 790-9850 pour l'extérieur de Montréal. 1-866-790-9850. J'attends vos appels. Je sais que c'est un sujet qui est lourd, mais pourquoi on s'en cacherait?
Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Il y a un autre volet, évidemment, à cette question. Est-ce que vos proches ont perdu, l'avez-vous vu, l'avez-vous senti, perdu de l'autonomie pendant cette pandémie? Un premier appel, on me dit que c'est Marcel Leboeuf, le comédien et conférencier. Bonjour, Marcel Leboeuf.
Oui, bonjour, Jean-Luc, ça va bien?
Très bien, merci. Vous-même?
Oui, ça va bien. Oui. Moi, je reste persuadé qu'il y a des gens qui ont beaucoup perdu. Moi, mon papa a été 3 mois confiné dans sa résidence, dans son petit appartement. Mon père avait 94 ans et faisait beaucoup d'exercices à tous les jours, marchait beaucoup. Et ce confinement-là, puis moi, je l'entendais dans sa voix au fur et à mesure que les semaines avançaient, cet isolement-là est venu le chercher. Et puis, mon père est décédé il y a une semaine.
Sympathie.
D'abord, oui, merci bien. D'abord, il a fait un infarctus, mais il a fait des crises d'angine à répétition. Je soupçonne, Jean-Luc, que papa en a fait dans son petit appartement, mais il ne nous l'a pas dit. Mm-hmm. Parce que à cause de la COVID, il ne voulait pas aller à l'hôpital pour ne pas attraper la COVID.
C'est ça. Donc, il ne voulait pas déranger les autres et lui-même, dans son isolement, s'est dit, regarde, je vais m'arranger avec ça, mais oui. Il a perdu cette dynamique d'interagir.
Ah, absolument. Écoute, je veux dire, le avant et après le confinement, mon père, c'était plus le même homme. Papa conduisait son auto et tout ça, là, mais après le confinement, on oublie ça. Là, puis c'est sûr que après ça, la semaine qu'il a passé à l'hôpital, là, il a fait un infarctus. Alors, la semaine qui a passé à l'hôpital, ben là, on le voyait partir. Mais, puis malheureusement, une nuit, il est tombé à l'hôpital. Ouais. Alors, il s'est fait une bonne bosse à la tête. Puis ça, ben, ça a créé 3-4 jours après un AVC. Puis c'est ça qui l'a emporté.
Marcel Leboeuf, vous êtes un homme ouvert, je le sais. Alors, je ne me gênerai pas pour vous poser la question. Est-ce que ça a changé votre propre vision de votre fin de vie?
Oui, ça change les choses. C'est sûr que ça... Ça fait mettre plus qu'en perspective la. C'est sûr que ça amène une réflexion sur la vie, la mort, la fragilité, le système dans lequel on est aussi, l'approche qu'on a par rapport à la mort. Tu as dit, Jean-Luc, par rapport au fait qu'on dépêchez-vous, brûlez-moi ça, puis qu'on passe à d'autres choses. Il n'y a plus ce contact-là avec la mort, bizarrement. On s'est aseptisé le plus possible. On veut le moins possible être en contact avec ça. Tu sais.
On a évacué de la vie le fait de la fin de vie et de mourir. Pourtant, c'est une expérience de la vie. C'est l'ultime. C'est comme si on ne voyait pas nos enfants naître, fait qu'on ne veut pas voir nos enfants mourir. Et ça a changé quand la paternité a fait en sorte que l'homme pouvait être participant à la natalité, à la naissance. Alors, je comprends mal ce phénomène-là, personnellement, mais que voulez-vous?
Oui, mais tu sais, par rapport à ma propre vie à moi, quand mon heure va être arrivée, j'espère que mes proches vont avoir accès à moi. Là, nous, on a eu accès, papa. On a eu accès pendant une semaine, mes frères et moi. Mmh. On a pu aller le rencontrer, lui parler, parce qu'il avait encore toute sa raison. Mais ceux qui étaient dans le cœur même de la pandémie, là, et qui n'ont pas pu avoir accès à leurs proches, mourir seul. Tu sais, toute ta vie, tu as eu des enfants, tu as été entouré, et tout à coup, il arrive un événement qui fait que tu meurs seul. Ben moi, ça, j'aimerais pas ça, je voudrais pas ça. Ouais. Ça, c'est une des réflexions qui m'est arrivée durant la semaine.
Mm-hmm. Ouais. Marcel, merci beaucoup, mes sympathies.
Ça fait plaisir, Jean-Luc.
Je pense que d'avoir partagé avec nous cette réflexion-là peut amener des gens aussi à réouvrir leur vision des choses. Merci, Marcel Leboeuf.
Merci, Jean-Luc.
Merci, au revoir. Lise est avec nous. Bonjour, Lise.
Ah, bonjour, merci de m'écouter.
Ben, ça me
je voulais
plaisir,
vous apporter un point supplémentaire qu'on ne traite jamais dans l'histoire de la COVID.
Oui.
C'est le groupe d'âge des 60-70, relativement en santé comme moi, mais divorcé, vivant seul, ayant des enfants qui vivent assez loin. On a été complètement oubliés. Il y a juste Mario Dumont qui a fait un article dans le Journal de Montréal sur le sort des célibataires, que nous aussi, la mort a rôdé autour de nous. Nous aussi, on s'est sentis seuls, mais on rentre pas dans aucun créneau du système. Il n'y a pas de médecin de famille, il n'y a pas de CLSC pour nous aider. Moi, j'ai vécu ça horriblement seul. J'ai senti la mort rôder parce que j'ai 2 maladies chroniques, mais j'ai pas de problème cognitif, je marche bien.
Avez-vous un réseau d'amis?
Oui, mais les gens ne voulaient pas venir. J'ai été quasiment 3 mois toute seule dans la maison.
Mais vous pouviez un petit appel? Allô, comment ça va?
On a fait beaucoup, beaucoup de FaceTime, mais je peux vous dire, M. Mongrain, le FaceTime, ça ne remplace jamais une rencontre en personne, les yeux dans les yeux.
Je suis d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. C'est même des rencontres virtuelles. Tu te demandes si tu es vraiment là, tu sais. Si tu sors de l'écran, tu n'es plus là. Alors, c'est fini.
Non, mais il y a une grosse détresse psychologique là, qui s'est installée.
Absolument.
Moi, j'ai quasiment fait une dépression. Mais nous, puis je travaille encore. Donc, tu sais, je suis pas un cas problème qui vit aux extrêmes. Là.
Je comprends.
Mais la détresse humaine n'est pas moins là. Hein? Elle était là.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Merci, Lise, de votre témoignage et de nous amener à penser à ça. Tu verras, c'est la journée des Lises. Bonjour, Lise.
Oui, bonjour.
Bonjour, madame.
Ça va bien?
Bien, merci, vous-même.
Oui, ma mère a 92 ans, elle est en CHSLD. Mm-hmm. Naturellement, elle a vécu le confinement avec beaucoup de difficultés.
Ah, oui.
Elle a perdu beaucoup, beaucoup d'autonomie. Elle marchait, elle pouvait aller manger à la cafétéria, suivre les activités, bingo, jeux de poche, les danses, les réunions, elle allait à tout ça. Et là, le confinement l'a complètement transformée. Elle dort tout le temps. Puis en plus... Il y a un nouveau confinement. Ça fait 5 semaines qu'on peut pas aller la voir, là, parce qu'il y a une personne de malade dans son secteur. Fait que là, c'est encore une autre grosse perte d'autonomie qui se vit à l'heure actuelle. Et puis, nous, on a une caméra. puis on voit des choses qui sont pas correctes, puis quand on essaye de rapporter ça, ben c'est difficile, on peut pas parler à personne, on se fait appeler pour avoir des réunions avec eux, puis bon.
Dans quel coin êtes-vous?
Ma mère est dans un CHSLD à Montréal. C'est pas évident. Je vous dis que moi, j'ai 68 ans, et moi aussi, je vieillis avec elle en ce moment, là.
Oui, c'est ça.
Hein? C'est pas facile.
Ça siphonne l'énergie de tout le monde, évidemment.
Oui, et puis, tu sais, les activités, là, je comprends pas que ça revienne pas. Je comprends pas que, même si elles sont isolées dans leur chambre, mangent dans leur chambre, ne sortent pas de leur chambre, ma mère a pas sorti, elle a sorti qu'une fois cet été.
Elle n'est pas juste confinée, elle est comme prisonnière.
Ben, c'est ce qu'on sent. Je lisais l'article ce matin, le monsieur dans la presse qui s'est mis d'une cellule en face du gouvernement, mais ma mère est dans une espèce de cellule aussi, là, comme un prisonnier.
Merci beaucoup de nous partager cette réalité-là. J'espère que ça va éveiller un peu les gens qui vivent là. Il doit y avoir certainement un moyen de les faire bouger, à tout le moins, à moins que, je sais pas, les CHSLD, c'est pas tous pareil. Hein? On va parler à Catherine maintenant, qui a travaillé dans un CHSLD ou qui travaille déjà encore. Oui, bonjour Catherine.
Je travaille plus en CHSLD. J'ai dû quitter, là. Excusez ma voix. Je suis un peu encore émue de parler de cette expérience.
On vous écoute.
J'ai travaillé pas longtemps. J'ai toffé 3 semaines. C'est qu'est-ce qu'elle disait, madame, qui se sent emprisonnée, tout ça, c'est ce que j'entendais pendant mon chiffre à chaque jour. Des gens qui disaient qu'ils se sentaient enfermés, qui comprenaient pas que les prisonniers avaient plus de liberté qu'eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu des gens, je me suis même fait donner plusieurs des anciennes qui étaient là-bas, faisant pas trop, fais pas trop ça. T'ouvrais les couches, c'était boutonné comme. Je peux même pas rentrer dans les détails tellement que ça me fait revivre des images, là. Mais je peux vous dire, il va falloir vraiment libérer des ressources en santé mentale pour ces gens-là.
Et davantage de personnel et d'investissement dans la façon dont ça opère, parce que ce que vous me racontez là, c'est une attaque profonde à la dignité des gens, là.
Exactement. Puis je peux vous dire, j'ai appliqué sur Je contribue la première journée que je suis rentrée au travail. Personne ne savait où j'étais. J'ai attendu 1h30, prête à travailler. Je ne savais même pas où j'allais être assignée.
C'est sûr qu'on était dans l'impro un peu, là, un peu d'improvisation, parce que c'était nouveau. Merci beaucoup de ce témoignage-là, Catherine. C'est une autre vision de la même réalité et ça fait du bien de voir tous les angles quand on discute d'un problème et d'un sujet. On s'arrête pour une pause.